Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes sur Esprit Occitanie et à tous, bien sûr. Alors, pour commenter cette actualité, je vais vous dire de qui je ne suis pas en compagnie, puisque nous avions prévu Sandrine Fourreuse, qui est coincée dans les bouchons, mais on sait qu'il est impossible de circuler dans Toulouse, donc qui a jeté l'éponge. Et nous restons en plateau Alain Perret, maire de l'Union, conseiller départemental de Toulouse 9. Bonjour Alain Perret. Et Jean-Luc Palévaudy, le vice-président de la radio Esprit Occitanie, est passionné par la chose publique, voire politique. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, essentiellement de deux thèmes. Le premier est sur la réaction qui a l'air de bien se porter en France. Et ensuite, nous évoquerons M. Biden, l'Europe et la France, ainsi que les rubriques habituelles. Voilà, c'est ça va mieux, c'est parti. Et c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Alors, premier sujet... C'est la réaction. La réaction, est-ce qu'elle prospère en France ? Oui, alors Monsieur Perret me dit, Marc Perret, oui, qu'est-ce que j'ai dit ?
Alain, je crois.
J'ai dit Alain,
c'est
bon.
C'est un très beau prénom, hein ?
Oui, c'est un beau... Ah oui, d'ailleurs, sur mon conducteur, oui, j'ai marqué Alain Perret, je ne sais pas pourquoi, alors que je sais pertinemment que vous appelez Marc. Désolé, Marc Perret. Premier sujet, la réaction dont on va se demander si elle prospère en France. Alors, vous l'avez remarqué, il ne se passe pas deux jours, et que dis-je, deux jours, d'heures, sans que l'on nous donne des nouvelles du sieur Zemmour, de ce qu'il a fait, dit, écrit, de son ascension dans les sondages, de ses soutiens actuels, futurs, ainsi que de la lutte qu'il oppose au RN et à Marine Le Pen, qui manifestement pâtit de cette concurrence. L'homme jouit d'une présence médiatique forte, peut-être même complaisante de la part de certains médias, suivez mon regard, j'ai pas besoin de les citer, ce qui lui permet de développer ses thèmes favoris que sont l'islam et le rejet qu'il en prône, la place des femmes dans notre société, il est ouvertement machiste et misogyne, mais il est aussi raciste et homophobe, et il manie comme personne l'injure, la provocation et l'outrance. Ce délicat personnage est clairement réactionnaire, c'est-à-dire qu'il brosse le portrait d'une France qui n'existe pas et qui ne pourrait exister même s'il était au pouvoir, mais un portrait que passablement de nos concitoyens appellent de leur vœu, ce qui donne l'étendue du travail qui reste à accomplir pour éclairer certains de nos concitoyens, pour autant qu'ils y soient prêts, ce qui est une autre affaire. Son programme, qui finalement n'existe pas, est de revenir à ce qui serait un temps d'avant, entre guillemets, une mythologie complètement fantasmée d'une France blanche où l'autorité était respectée et où les femmes ne votaient pas. Alors comment un tel phénomène est-il possible ? C'est la question que je vous pose à tous les deux. La France serait-elle sociologiquement, intellectuellement, idéologiquement à droite ? Est-ce que la faiblesse des autres candidats à la présidentielle, la vacuité de leur programme, quand ils en ont un de programme, n'explique pas l'engouement pour cet éditorialiste polémiste qui fait semblant d'avoir de la culture sur cette question ? Eh bien, on va commencer par Marc Perret, je l'ai bien dit cette fois-ci, je lui ai attribué le bon prénom.
Merci d'abord pour votre invitation et merci pour ce thème qui est un thème important. Cependant, moi, je fais partie des gens qui rejettent petit à petit les postures qui cherchent à condamner. Certes, on peut condamner les hommes politiques et les femmes politiques, mais les gens qui suivent ces mouvements-là et qui finalement votent pour eux. Je crois qu'il est vain et totalement inefficace de montrer du doigt ces millions de Français qui sont prêts à voter pour des idées d'extrême droite et des idées xénophobes, parce que ça fait 30 ans qu'on le fait, ça. 20-30 ans qu'on le fait, et on voit bien que ça ne marche pas, et qu'au contraire, d'ailleurs, peut-être que ça renforce ces mouvements-là. C'est-à-dire que, et c'est un peu le sens de votre propos, là, ce qu'on doit chercher à comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que ces mouvements-là prospèrent, Qu'est-ce qui fait que le total des voix de gauche fait 25% dans un pays qui a connu du 60% de voix de gauche? Moi, je ne crois pas que la France soit un pays rétrograde et conservateur. Je crois que c'est un pays qui a été habité depuis 3 siècles par des idées révolutionnaires. Hein. Ça a été la lumière de l'Europe au XVIIIe siècle. Je pense simplement qu'on assiste depuis 30 ans au fait de briser tout ce qui est approche collective des solutions, des problèmes, des difficultés, et qu'on assiste depuis les années 80-90. D'ailleurs, le phénomène Bernard Tapie, rappelez-vous, à l'époque, a participé de cette démarche-là, au fait de dire, nous sommes tous des individus, nous aurons une approche individuelle des solutions, nous pouvons tous réussir, et donc briser, briser les sentiments de classe. À partir du moment où on a explosé tout cela, effectivement, les solutions qui sont recherchées sont des solutions qui passent par des propos ou des positions conservatrices ou de rupture telles que vous les évoquiez. Donc, voilà mon analyse. C'est-à-dire que je pense qu'il est vain de dénoncer auprès de l'électorat, enfin, en tout cas ça ne marche pas, de dire les idées qui sont, ces idées-là sont des idées fascistes, racistes, on le sait tous, on le sait, c'est même plus la peine de le dire. Maintenant, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui fait que ça amène des gens à voter pour ces leaders-là.
C'est exactement la question que je vous posais, parce que on va pas stigmatiser les gens qui votent, surtout qu'ils sont de plus en plus nombreux, et que je crois que dans les deux dernières élections présidentielles, l'extrême droite était au deuxième tour à l'exclusion de tous les autres. Donc comment vous l'expliquez? Ça, on est d'accord, on va respecter nos concitoyens. Après tout, ils ont des idées, hein, toute idée assumée et respectable. Mais là, au cas particulier, comment faire machine arrière et comment faire que cet électorat puisse un peu se dégonfler au profit d'autres candidats, peut-être un peu plus... Enfin, je ne vais pas les qualifier, puisque ça me... En creux, je qualifierais...
Progressiste.
Voilà, on peut le dire comme ça, si vous voulez. Alors, quelle est la solution, Marc Perret, avant de passer la parole à Jean-Luc?
Oh, moi, mon fondement politique, il est non seulement acquis par le fait de travailler, de lire des bouquins sur des idéologies précises, mais il se confronte à la vie. Et moi, je suis persuadé que le partage des richesses, l'absence de partage des richesses dans notre pays, de plus en plus, c'est le terreau fertile pour que ces idées-là progressent. Donc moi, je crois à la lutte des classes et je crois au partage des richesses. C'est-à-dire, les gens sont de plus en plus en difficulté, de plus en plus malheureux, ont de plus en plus de mal à vivre. Moi, je reçois des gens chez moi, à la mairie, une dame que j'ai reçue, professeur de musique à la retraite, 82 ans, une vie un peu chaotique, une vie professionnelle un petit peu chaotique, pas que professionnelle d'ailleurs, et qui vient me voir, c'était en fin septembre, pour me dire qu'elle avait, avec ses 920 euros de minimum vieillesse, elle passait le dernier week-end avant le 1er octobre à manger une baguette et une boîte de sardines, pour tout le week-end. Voilà ce qu'elle avait. Elle me le dit en pleurant. Et donc, si ces gens-là, vous pouvez leur expliquer tout ce que vous voulez, parler de laïcité, de la République avec un grand R, etc. Ces gens-là, ils sont en souffrance totale, ils n'arrivent pas à finir le mois. Et tant qu'on ne dit pas on va changer les choses de façon à ce qu'il y ait un meilleur partage des richesses, le malheur sera le terreau du fascisme.
Jean-Luc Palévaudy.
Oui, si je partage l'idée que on ne peut pas s'appuyer sur, la critique que certains de nos concitoyens pourraient penser comme ci ou comme ça et être attirés par, le phénomène Zemmour qu'on découvre aujourd'hui. Je dirais qu'il faut relativement nuancer quand même le problème et à la fois revenir sur la réalité du contexte politique que nous vivons dans notre pays depuis plusieurs années. Aujourd'hui, un phénomène Zemmour, mais rappelons-nous, le dernier phénomène, c'était le phénomène Macron lors de la dernière présidentielle qui, quasiment, en quelques mois, est sorti de nulle part pour se retrouver président de la République. Donc on a un système politique aujourd'hui qui focalise sur une seule élection, tout ce qui peut être comme ressenti et comme possibilité de se ranger derrière une personne. Et quid des partis ? Parce que tout ce qu'on observe aujourd'hui, c'est quoi ? C'est finalement la faillite des partis politiques. La faillite de tous les partis politiques, qu'ils soient de gauche. Marc Perret l'a rappelé, la gauche, elle n'est pas à 30% dans les sondages aujourd'hui, même s'il faut espérer que les choses puissent évoluer, différemment à l'approche de la future élection. Mais globalement, les partis traditionnels, ceux qui sont, qui se reconnaissent du fonctionnement républicain, eh bien, sont tous à moins de 15%, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche. Et donc, on se retrouve dans une élection qui focalise effectivement le débat populiste. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle que de ce qui tranche par rapport à ce qui convient d'être, des analyses programmatiques que peuvent proposer les partis, des analyses qui peuvent être aussi construites sur, ce qu'on a connu à l'époque, c'était la capacité aux syndicats, globalement, de pouvoir être aussi des acteurs de la réflexion des Français et de nos concitoyens dans la problématique sociale, qu'elle soit nationale, qu'elle soit plus locale. Et aujourd'hui, nous observons une faillite total de ce système-là. Donc, l'avènement providentiel d'hommes ou de femmes qui, effectivement, manipulent globalement plutôt bien, le discours et qui flattent, pas une majorité, mais un certain nombre d'électeurs dans le sens de ce qu'ils veulent entendre, puisque les partis politiques ne sont plus audibles au niveau qu'il le faudrait dans une réflexion qui amène quand même l'avenir de ce pays en termes de conduite des affaires nationales. Juste un dernier point. On voit bien que c'est bien le phénomène présidentiel qui amène ça. Parce que quand on revient sur des élections plus locales, on voit que la gauche est moins mal. Et notamment, on peut en parler dans notre région, dans notre département, dans nos villes du sud-ouest. La gauche fait plus que bonne figure. Quand on revient sur le plan plus régional, on peut dire là aussi que ce sont les partis, qu'ils soient de gauche, que soient de droite républicaine, s'en sortent plutôt mieux. Et l'électorat est moins enclin à aller donner ses suffrages à des extrêmes. Et on l'a vu lors des dernières consultations. Donc ça amène à réfléchir.
Avant de repasser la parole à Marc Perret, juste un point, n'oubliez pas quand même que la dernière consultation, plus de la moitié du pays ne s'est pas dérangé, ce qui est quand même aussi un signe. Marc Perret.
C'est vrai. Et puis, on peut rappeler aussi qu'il y a eu un alignement au début des années 2000, 2002, je crois, de l'élection législative et de l'élection présidentielle. Le passage au quinquennat fait que maintenant, les élections législatives ont lieu un mois après les élections présidentielles et qu'elles sont totalement gommées. Et rappelez-vous, nous qui sommes des anciens, par exemple, moi je me souviens des législatives de 78, où il y avait des vrais débats politiques, programmatiques, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que c'était des programmes qui s'affrontaient sur les législatives. Aujourd'hui, ça a disparu. Jospin et Chirac portent la responsabilité de cet alignement, pour des raisons... Alors, pour aller dans le sens... Moi, j'adhère totalement à ces propos-là, mais il faut aller jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout et il faut... regarder exactement ce qui se passe dans les autres pays et proposer quelque chose de radical. Moi, je suis de nationalité britannique et française, les deux. Donc, je sais ce qui se passe au Royaume-Uni, mais j'ai des enfants italiens, donc je regarde dans tous les pays d'Europe, et vous aussi d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir des... L'élection d'un président de la République au suffrage universel existe nulle part. Nulle part. Il n'y a pas un pays en Europe qui élit son président de la République au suffrage universel. J'irai plus loin, je crois que dans le monde, on m'a dit qu'il y avait le Mexique. Qu'au Mexique, on élisait le président de la République au suffrage universel. Et il n'y a pas d'autre endroit. Donc, en adhérant à ce que vous dites, allons jusqu'au bout. Et on va dire qu'effectivement, ce qui sclérose, ce qui cristallise la vie politique en France, ce qui la sclérose surtout, c'est l'élection du suffrage universel, au suffrage universel du président de la République. Imaginez librement dans vos têtes ce que serait la vie politique dans un pays où il n'y aurait pas d'élection au suffrage universel d'un président de la République. D'abord, il n'y aurait pas ces mises en orbite d'une personne qui, sur des slogans, gagnerait des élections, ou sur des financements, comme ça a été le cas pour Macron, ou Zemmour, parce qu'il a une audience. Il y aurait des véritables combats politiques sur des programmes. Et moi, je suis absolument pour, et je trouve que c'est la seule solution, la suppression de l'élection du président de la République au suffrage universel. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Et ça cristallise la vie politique, parce qu'une fois qu'il est élu, il est là pour 5 ans et ça ne bouge pas. Mais dans les autres pays en Europe, ça se passe pas comme ça. C'est, on élit une assemblée, des députés, et c'est eux qui désignent et qui votent pour le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui dirige le pays. S'il y a une crise, comme on a eu les Gilets jaunes ou plein de crises dans les années précédentes, hein, avec Sarkozy, avec Hollande, chaque fois on a des crises majeures, la situation politique est crispée parce qu'il y a ce président de la République qui a été élu pour 5 ans et qui désigne le Premier ministre. Dans les autres pays, bah, quand ça se passe mal, en Espagne encore récemment, je crois, bah, le Premier ministre, il démissionne. Et c'est pas la fin du monde, du tout, c'est pas la fin du monde. Et soit il y a de nouvelles élections législatives, soit le Parlement réélit un nouveau Premier ministre. Moi, je vous demande librement de réfléchir à ce que serait la vie politique en France s'il n'y avait plus d'élections au suffrage universel du président de la République. Je suis farouchement pour la suppression du poste de président de la République élu au suffrage universel.
Alors, en dehors de ça, et vous avez peut-être raison, on y réfléchira, en dehors de ça, vous ne pouvez quand même pas nier que les partis politiques n'ont plus aucune idée aujourd'hui. Les partis politiques sont devenus des machines vaguement électorales à faire élire quelqu'un qui n'a strictement aucun programme. Il n'y a plus de combat d'idées.
Non.
C'est quand même dramatique.
Parce que tout tourne autour de la présidence de la République, de l'élection.
Mais ça n'empêche pas les partis d'avoir des idées.
Ils mettent toute leur énergie sur le fait de trouver le bon poulain et qu'il soit médiatiquement... présentable.
Ils ne savent pas comment justement le trouver, le bon poulain, puisqu'il y a toujours des prétendants, parce que les prétendants sont pléthores, mais comment le désigner une fois qu'on a désigné un? Ceux qui ont été écartés, évidemment, n'ont qu'une de cesse que de scier la branche de celui qui a été désigné, et ceux qui s'alignent sur cette course n'ont strictement aucune idée, aucun programme, aucune vision. Est-ce que le personnel politique français aujourd'hui n'est pas médiocre, c'est méchant de le dire, mais est-ce que... Qui voyez-vous aujourd'hui qui émerge des politiciens? Nous en avons beaucoup, des hommes politiques. Vous pouvez m'en citer?
Non, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'il y ait une personnalisation de la vie politique. S'il n'y a que des élections législatives, il y a 577 élections en France, il y a 1, 2, 3 leaders qui émergent, mais ce n'est pas très important. Alors qu'aujourd'hui, avec l'élection au suffrage universel du président de la République, il faut qu'il y ait une seule tête. On voit d'ailleurs ce qui se passe chez les Républicains, où ils se bouffent le nez entre eux pour savoir lequel sera celui qui sortira du chapeau.
À gauche, c'est un peu pareil. Enfin, au parent, à gauche, il faut
à gauche, c'est plus simple.
Au Parti Socialiste, par exemple.
À gauche, il y en a un par écurie, donc c'est ça.
Un ou deux, je ne sais pas. Alors, on nous dit, il y a Madame Hidalgo, qui n'a pas l'air de plaire à tout le monde, c'est un euphémisme. Il y a M. Le Foll qui dit, je veux la place. Il y a M. Montebourg qui souhaite se mettre dans la course aussi, qui a déjà commencé, il est même venu dans notre région. Ça commence à faire beaucoup pour un parti qui réunit 5% des voix. Jean-Luc.
Oui, en fait, je pense que c'est surtout pas comme ça qu'il faut aborder ces débats. De toute manière, et je l'ai dit tout à l'heure, moi je considère que c'est un drame pour notre démocratie que cet affaiblissement de la représentation politique. Certes, on peut penser, on pourrait croire que les hommes et les femmes engagés politiquement, et notamment ceux qui sont en responsabilité, portent justement une responsabilité. Et je crois que c'est un raccourci qu'il ne faut sûrement pas faire. La réalité, c'est que ce qui traverse aujourd'hui le monde politique et, je dirais, les organisations politiques est à la lumière de ce qui traverse le collectif globalement tel qu'il est vécu aujourd'hui dans la société française. Parce que quand on analyse ce qui se passe au niveau justement de la représentation politique, eh bien, on pourrait faire la même chose, je le disais tout à l'heure, au niveau de la représentation syndicale, et on pourrait faire la même chose au niveau de l'engagement dans le monde associatif globalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une société aujourd'hui de zapping, on est dans une société aujourd'hui de l'éphémère. Globalement, on peut le ressentir dans toutes les strates de la vie sociale dans ce pays. Et donc, fatalement, eh bien, ça ressurgit, ça rejaillit sur ce que sont, ce que peuvent être et ce que, je dirais, permet aujourd'hui l'engagement, et notamment en matière politique. Moi, ce que j'observe, c'est que pas mal de gens sont prêts à s'engager politiquement. On l'a vu dans différents mouvements citoyens, d'ailleurs, lors des précédentes échéances locales. Mais ce qu'on voit aussi en même temps, c'est que ces engagements sont très éphémères. Ça dure quelques mois, peut-être, je dirais, à la marge, quelques années, mais pas beaucoup plus. Alors que ce qu'on a connu dans ce monde-là, mais dans le monde associatif, et j'en parlais, c'est que souvent, eh bien, on s'engageait pour des années. Des militants, qu'ils soient socialistes, puisque on en parle, ou d'autres partis, eh bien, pour beaucoup, étaient sur une vie sociale entière engagée dans leur parti. Et avec les hauts et les bas que pouvait vivre leur parti. Dans le monde syndical, il n'était pas rare aussi de voir des engagements, que ce soit à la CGT, à la CFDT, ou à Force ouvrière, ou d'autres que j'oublie, qui étaient pour beaucoup de très longue date, sur de nombreuses années, et y compris sur la même période que leur vie professionnelle. Et dans le monde associatif aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Et je terminerai là-dessus. C'est des dirigeants des associations qui, pour beaucoup, sont ou des retraités parce qu'ils ont du temps, mais surtout des retraités qui n'arrivent pas à donner la main pour de la relève, pour gérer l'association, retrouver des dirigeants, des présidents, des trésoriers, etc. Et donc, forcément, et ce sera ma conclusion sur ce point, faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, eh bien, on retrouve ces fonctionnements et ces réalités qui posent problème. Parce que s'il n'y a pas la continuité, s'il n'y a que du passage, eh bien, la notion de conviction, la notion de projet à porter, la notion de travail politique à faire pour faire éventuellement de redorer le blason des partis politiques, eh bien, n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. En tous les cas, ce n'est pas ce que je pressens.
Marc Perret, commentaire complémentaire.
Oui, juste, moi je pense que le constat, il est juste. Mais une fois de plus, il faut pas culpabiliser les personnes ou il faut essayer de comprendre pourquoi ça se passe. Ça. Et les gens, ils ne croient plus, et la gauche a une responsabilité immense, les gens, ils ne croient plus en l'investissement collectif ou auprès de partis politiques ou même de syndicats, effectivement, parce qu'ils ont trop souvent considéré qu'ils ont voté pour des gens et que les gens, ils n'ont pas changé la vie. Ils n'ont pas fait les politiques de rupture qui font que la vie a changé, donc ils n'y croient plus. Donc moi, je comprends, j'en arrive même à comprendre les gens qui ne viennent pas voter. Je comprends les gens, alors, sans parler des gens qui ne s'investissent plus dans les partis politiques. Ils n'y croient plus. Ils n'y croient plus parce que...
Et parce qu'on ne leur parle pas des vrais problèmes, on ne leur parle pas
de ce qu'ils ont déçus. Ils ont été déçus, ils ont été extrêmement déçus, donc maintenant ils disent, c'est chacun pour soi, et puis tout ce que vous nous racontez, vous ne le ferez pas, de toute façon. Donc, vous savez, moi j'ai entendu... Je me souviens très bien, moi j'étais sur le gouvernement 2012-2017 de Hollande. Je me disais, mais c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas une prise de conscience sur une cause nationale ou internationale, la lutte contre la faim dans le monde, la lutte pour la dénucléarisation, qu'il n'y ait pas un thème qui soit porté par ce gouvernement à l'époque. Et la deuxième chose que je dis souvent à mes amis socialistes, je leur dis, mais vous vous rendez compte que la gauche au pouvoir, Hollande 2012-2017, à aucun moment, ils ont donné un coup de pouce pour le SMIC. À aucun moment, ils ont dit, on va augmenter le SMIC de 10%. Ça a fait des dégâts terribles, ça. Terribles. Moi, je le vois autour de moi. Les gens ils me disent, j'y crois plus. Ça ne change rien. À la gauche, à la droite, ça ne change rien.
Quand on voit les enquêtes qui sortent, notamment la dernière là, sur l'évasion fiscale, et qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre de politiciens, notamment de gauche, puisqu'on peut parler de M. DSK par exemple, quand on voit quelles sont leurs pratiques, je crois que ce n'est pas ça qui va ramener les gens, ni dans les partis, ni à l'élection.
Non mais même sur la lutte contre... Il y a un an ou deux, il y a les Panama Papers qui sont sortis. Oui. Mais rappelez-vous les cris d'orfraie qui étaient poussés en disant « ce ne sera plus jamais comme ça, on va s'en occuper ». Il faudrait ressortir les articles et les déclarations de l'époque.
Ah ben c'est les mêmes que ceux qu'on lit aujourd'hui. Ce n'est pas difficile, c'est la même chose. Mais rien n'est fait.
Rien.
Parce que sur le contrôle fiscal, quand même, comment se fait-il, à votre avis, Marc Perret, moi, ça m'a toujours heurté, cette histoire d'évasion fiscale. Comment se fait-il que ce soit des poules de journalistes qui lèvent ce type de choses, alors que nous avons un État à parfaitement les moyens d'aller chercher ces informations? Ils ont des services qui sont peut-être un peu mal utilisés, mais on pourrait les utiliser à cette fin. Il faut que ce soit les journalistes qui lèvent les problèmes. Vous trouvez ça normal?
Ben non, ce sont ceux qui profitent de tout ça. Vous avez la liste, hein, des personnes. Il y a une proximité, on va dire, pour être poli. Proximité.
Une promiscuité, même. Bon,
allez, on va dire une promiscuité avec le pouvoir politique qui est tel qu'ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Il faut avoir du courage pour aller chercher le nom des entreprises qui volent de l'argent, 100 milliards d'euros par an, 100 milliards d'euros par an, au fisc français. Il faut avoir du courage pour y aller.
Il faut voir aussi qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises françaises, grandes entreprises françaises où l'État est associé, qui ont leurs sièges sociaux dans des endroits, oh, peut-être pas très loin, ils vont pas dans les îles, Caïmans, mais en Belgique, au Luxembourg.
Moi, je crois à une seule chose, c'est la force de la loi. C'est-à-dire qu'on peut me raconter tout ce qu'on veut, faire des déclarations, des postures. Il y a une chose qui marche très bien dans un pays, c'est les lois. Donc, on change les lois, on met des lois précises.
Et les lois sont précises aujourd'hui. L'appareil de répression, entre guillemets, fiscale est extrêmement draconien, c'est très précis.
Alors, on a l'outil. Alors il faut l'appliquer.
Oui, il faut l'appliquer, mais on a l'outil. Jean-Luc ?
Oui, il y a un point que nous n'avons pas abordé. C'est quand même, là aussi, je dirais, on parlait de d'affaiblissement... niveau de la représentation politique, mais c'est le divorce quand même de génération. Notamment pour moi, le divorce entre les jeunes et les électeurs qui ont une certaine idée de ce qu'ils ont pu traditionnellement vivre par le passé et des points de repère qu'ils pouvaient avoir justement dans les points que nous venons d'aborder et qui représentaient quand même des choses qui permettaient d'avoir une certaine qualité et tout au moins possibilité de débat dans des structures. Aujourd'hui, globalement, je ne stigmatise pas, je n'ai pas une analyse précise, mais l'impression que j'observe et que je ressens en tous les cas, y compris par rapport à ma propre famille, mes enfants, on ne parle plus la même langue, on ne réfléchit plus pareil, on ne s'instruit plus pareil et on n'a plus donc les mêmes repères. Et de ce point de vue-là, on parle souvent de l'affaiblissement cognitif. Je sais que M. Lavergne est un friand d'un fameux livre qui est paru en
Amérique. Apocalypse cognitif de Gérald Bronner, je le rappelle, puisqu'il est tout à fait excellent et tout le monde devrait l'avoir lu et se gratter la tête après.
Et donc, l'analyse qui est faite à travers... le travail de recherche qui explique quand même, non pas forcément qu'en termes critiques et donc de stigmatisation des populations par rapport aux autres, mais il y a bien une fracture aujourd'hui entre une génération et, je dirais, en tendance, notre génération, ceux qui ont aujourd'hui entre 40 et 60 ans. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui pèse dans l'approche qu'on peut avoir et des sujets et comment on les aborde. Parce que quand vous parlez, Marc Perret, des problématiques sociales, de la fracture sociale et avec les exemples que vous avez donnés, eh bien, aujourd'hui, on peut avoir une analyse, quasiment scientifique de pourquoi, ou en tous les cas une analyse philosophique de réalité du monde, de l'économie, de ce qui fait qu'aujourd'hui on avait un discours il y a quelques années en arrière où on pouvait parler de la lutte des classes. Aujourd'hui, je suis désolé, quand on parle de la lutte des classes à des 20-30 ans, je pense qu'ils nous prennent pour des clowns. Eh bien, je ne les stigmatise pas, je ne les critique pas, j'observe. Et ça, moi qui ai envie que la fonction politique reprenne sa place, que les partis politiques retrouvent des militants, eh bien, aujourd'hui, je ne sais pas de votre côté, mais moi, je peux dire que c'est un chemin de croix. Parce qu'on n'a pas le code, on n'a pas les codes oratoire, culturel et, je dirais, les mécanismes qui font qu'on va être attractif.
Le problème, c'est que effectivement, tout ce constat est une fois de plus entièrement vrai. Le problème, c'est que moi, je crois que c'est les générations qui arrivent qui ont raison, de toute façon.
Ou, par définition.
Parce voilà, que par définition.
C'est elles qui vont avoir la main.
Ou donc. Du moins, c'est le réel. Voilà. Eux, c'est le réel. Donc, effectivement, puis il faut comprendre pourquoi il y a eu cette rupture dont vous parlez, c'est-à-dire la culture politique, la culture de classe, la compréhension des problèmes de classe qui a effectivement plutôt disparu. Par contre, la jeunesse, moi, elle m'impressionne sur certains points quand même. Il y a une rupture par rapport à... Moi, je suis un ancien élève d'une école d'ingénieur. Quand on sortait de l'école d'ingénieur, on cherchait un boulot dans la meilleure boîte possible, chez Veolia, enfin, ça n'existait pas, mais toutes ces boîtes-là, etc. Moi, je dis, mais toutes mes filles sont dans des écoles d'ingénieurs maintenant, et leurs copines aussi. C'est plus du tout ça, du tout, c'est incroyable. C'est plus le CDI, je cherche le CDI pour travailler chez Renault, je sais pas quoi. C'est quel est le sens de ce truc-là? Moi, ma fille, là, elle m'a appelé cet après-midi, elle dit, ah, j'aimerais bien faire mon stage sur les problèmes énergétiques, mais je veux absolument le faire dans une structure d'État, pas dans le privé. C'est incroyable. Donc il y a quelque chose qui se passe quand même. Il y a cette absence de vision politique globale, entièrement. Mais par contre, il y a une recherche de sens que nous n'avions pas, nous, dans notre jeunesse, qui est fort lointaine.
Bien, merci Marc Perrin. Nous avons terminé sur une note d'espoir.
Je partage cette analyse.
Allez, passons, regardons un peu de l'autre côté de l'Atlantique et demandons-nous si M. Biden ne serait pas finalement un autre Trump. Alors évidemment, conclure cela ne serait pas très flatteur, vous le comprenez, pour le président américain, mais il faut quand même... bien convenir que, vu de ce côté de l'Atlantique, la question mérite d'être posée. Alors, il y a l'affaire des sous-marins australiens, il y a le retrait d'Afghanistan aussi bâclé qu'unilatéral, une conception du multilatéralisme assez singulière, une façon de se comporter avec ses alliés à géométrie variable, puisque l'on voit très bien aujourd'hui que c'est la sphère anglophone qui a nettement pris le dessus dans les relations. Alors certes, le pivot vers l'Asie n'est pas nouvel, M. Obama l'a initié, il a été suivi par Trump, renforcé par Biden, qui aujourd'hui met tout en œuvre, obnubilé qu'il est par son obsession chinoise. Et disons-le, il n'a peut-être pas tout à fait tort dans sa vision de l'expansionnisme chinois qui est totalement débridé et totalement décomplexé, voire agressif. Et les derniers présidents américains ont tous poursuivi une stratégie très cohérente, même si elle heurte notre ego et certains de nos intérêts financiers. Le spécialiste des relations internationales Dominique Moïsi, que vous connaissez certainement, l'a écrit dans Les Échos, et je le cite, « Loin d'être le sauveur attendu par l'Europe, Joe Biden apparaît au contraire comme un condensé de l'action de ses deux prédécesseurs. Il combine de manière brutale le virage de l'Asie de Barack Obama » et l'Amérique d'abord, sinon seule, de Donald Trump. Fin de citation. Jean-Luc Palévaudy ?
Je crois que pour avoir participé à quelques rencontres lors de la campagne des présidentielles américaines, et en entendant souvent avec la représentation démocrate en France, qui sont venus ici même d'ailleurs.
Oui, je les ai reçus pour commenter avant les élections et commenter après le résultat des élections.
Et en fait, j'aurais presque envie de dire, même si les choses ne sont pas comparables entre les États-Unis, qui sont quand même une fédération d'États, et la France, qui est un État, finalement, on reproduit politiquement, globalement, les mêmes choses. C'est-à-dire que cette campagne électorale telle qu'elle a été vécue et en tous les cas ressentie, qu'elle donnait quand même un certain espoir. Le premier, c'était de battre Trump, quoi qu'il en coûte. Et le second, c'était de pouvoir imaginer que le programme des démocrates allait changer la donne, que ce soit dans le domaine international, la position des États-Unis par rapport à l'ensemble, je dirais, des composantes internationales, et avec des sujets qui étaient mis en avant, qui avaient attrait à justement la notion de protection de la planète, donc de l'environnement, avec des positions qui pouvaient donner envie et laisser croire que les États-Unis pouvaient quand même être un acteur qui permette de changer la donne par rapport à ces questions-là. Que ce soit sur, je dirais, la notion de pouvoir battre en retraite de cette notion de protectionnisme américain, eh bien, on voit vite que ces choses-là se liquéfient à travers les premières actions menées par le président Biden. Je dirais que Biden, il doit être confronté aux mêmes problématiques qu'on voit dans l'ensemble des pays du monde. C'est aussi un électorat qui est complètement en décrochage par rapport à ces questions-là et qui ramène des choses qui ne permettent pas de pouvoir imaginer, et c'est bien triste et c'est même presque inquiétant, qu'un grand pays comme les États-Unis puisse nous montrer une vitrine de la démocratie telle qu'on pourrait penser qu'une démocratie moderne puisse devenir.
N'oublions pas aussi que le président des États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, a les mains totalement libres, que c'est un potentat chez lui. Il est confronté à un congrès où les républicains sont sur des lignes extrêmement dures et les démocrates parfois aussi difficile à convaincre. On voit que M. Biden se casse un peu les dents et surtout je pense qu'il doit commencer à s'inquiéter puisqu'on va arriver aux élections de mi-mandat dans quelques mois. Il faut qu'il aille vite et je crois qu'il ne peut pas trop prendre de gants. Mais ceci explique peut-être cela. Alors je parlais des anglophones amis de M. Biden, donc on a notre anglophone aujourd'hui dans le studio, enfin à demi-anglophone, Marc Perret.
Sur l'analyse des États-Unis, effectivement, c'est souvent... C'est souvent un problème complexe à gérer. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, je ne pense pas qu'il y ait eu de politique plus interventionniste dans le monde que sous Obama. Donc quand Obama est élu président de la République, président des États-Unis, on dit les choses ont changé, pas du tout. Je pense qu'il y a rarement eu autant de coups fourrés d'ailleurs. Hein. Il y a eu des livres qui sont sortis là-dessus, des coups fourrés, c'est-à-dire les coups fourrés, c'est les coups... passe sous la table, on n'en entend jamais parler, et qu'il y en a eu sous la présidence Obama. Moi, je crois qu'il y a une constante qui existe dans la politique des États-Unis, qui est la même, et je voudrais transférer le débat là-dessus d'ailleurs, c'est, qui est la même en Europe. C'est la protection, évidemment, des intérêts nationaux. Dans l'Union européenne, moi, ça fait 25 ans que je travaille sur ces sujets-là dans ma vie professionnelle, hein. Je peux vous dire que si on croit à la fable d'une parole commune de l'Union européenne, de l'ensemble des pays sur des sujets, c'est totalement faux. Les nations, elles essayent toujours, on le voit dans le cas d'Airbus, on le voit dans le cas récemment d'Ariane Group, qui a transféré la production d'un moteur qui était en Normandie, en Allemagne. On le voit, les nations, elles essaient en priorité de défendre leurs propres intérêts. Parce que les nations, c'est... On y parle la même langue, on a la même culture, c'est un réceptacle assez facile pour l'expression démocratique, alors que dès qu'on passe à un échelon supérieur, l'Union européenne par exemple, ça, tout devient beaucoup plus difficile. En tout cas, pour revenir à votre question, Biden il a bien commencé avec des mesures extrêmement sociales, je pense qu'il était tiré sur sa gauche par Sanders, rappelez-vous, je ne m'en souviens pas bien, mais des mesures assez radicales d'imposition sur les entreprises, je crois, il y a quelques mois de cela. Et on s'est dit, tiens, il y a un bouger considérable. Par contre, il est clair que, autre anomalie à souligner, objective celle-là, je crois, hein, je peux me tromper, mais je crois que jamais les États-Unis n'ont été aussi peu interventionnistes à l'étranger que sous Trump. Je pense que Trump n'a déclenché, si je ne me trompe pas, aucune intervention militaire. Aucune. Je pense même qu'il a dit, je me retire de là...
Il l'a dit partout, il a dit que lui, il n'interviendrait plus. America first, c'est nous.
Et on s'occupe plus du reste.
On se replie, c'est un peu comme la Chine finalement, hein, qui est l'empire du milieu. Bien, il y avait l'empire des États-Unis. On rentrait chez nous, on verrouillait les frontières, on s'occupait de nous.
La Chine, c'est ça. Hein. Attention, parce que la Chine, moi j'y ai habité pendant quelques temps. J'ai fait mon service militaire en tant qu'attaché scientifique dans le coin, en Corée du Sud. Et donc j'étais souvent j'étais en contact avec les diplomates français. Et je me souviens de monsieur l'ambassadeur, quelqu'un de très bon niveau, qui m'expliquait à longueur de repas dans les ambassades, comme dans les films, hein, qui m'expliquait que la Chine était un pays qui n'avait jamais, en 1200 ans, sauf peut-être le Vietnam, où c'est peut-être pas très clair, qui n'était jamais intervenu dans un pays, qui n'avait jamais envahi un pays, en 1200 ans. Je me dis, les Chinois ne sont pas des expansionnistes, contrairement à ce qu'on dit. Il n'y a pas d'exemple.
Ils sont expansionnistes économiquement, ah, bien c'est-à-dire sûr. Qu'ils essayent de pomper, si vous me passez l'expression, le monde, mais à leur profit.
Oui, au profit de leurs entreprises. Oui.
Absolument.
Mais d'un point de vue militaire, là je parle, une analyse objective de la Chine vous dira qu'ils n'ont jamais eu, alors qu'ils auraient
on
pu...
On va peut-être avoir un exemple, vous allez me dire que ça reste dans l'orbite chinoise, avec Taïwan. Il y a quand même 450 navires, je crois, dans la marine chinoise, là où il n'y en a que 350 aux États-Unis. Ils ont considérablement renforcé leurs forces armées et un jour, ils vont peut-être débarquer à Taïwan.
Alors, sur Taïwan, bon, les années passent depuis, je ne sais pas, c'est les années 60 ou c'est quand ? C'est dans les années 50 que,
50.
Que, ouais, 50. Moi, je vais vous dire ma position tranquillement. Je nuance ma position par le fait que les années passent et qu'il y a une situation établie. Mais Taïwan fait partie de la Chine. Vous savez comment ça s'est passé.
Ah oui,
quand Mao a gagné, Chiang Kai-shek et ses troupes sont allés avec des ponts aériens sur l'île de Taïwan, qui faisait intégralement partie de la Chine. Et les Américains ont dit à Mao, si tu vas là-bas, on te balance une bombe. On balance une bombe sur Pékin, si tu envoies tes troupes, ce qu'il aurait fait en 4 jours, c'était plié. Hein. Si tu envoies tes troupes sur Taïwan, donc les Chinois ne l'ont pas fait. Imaginez simplement une seconde qu'en France... Il y ait une sorte de révolution au 18e, 19e siècle, que les gens aillent sur la Corse et qu'on dise « Ah ben non, la Corse ne fait plus partie de la France ». La Corse encore, c'est un mauvais exemple. Parce oui. qu'il y a une culture locale, là on pourrait avoir un débat. Sur Taïwan, il n'y a pas de débat. Je vous le dis, historiquement, il n'y a pas de débat. Taïwan, c'est la Chine. Donc il est de bon ton de dire...
C'est pas tout à fait la même Chine quand même, parce que si vous allez voir les gens de Taïwan et que vous leur expliquez ce que vous
maintenant,
nous
oui.
dites...
Mais maintenant, oui. Mais maintenant, parce que c'est ce que j'ai nuancé mon propos en vous disant que...
Certes, mais le temps a passé.
Voilà, le temps a passé. Donc maintenant, il faut arrêter de croire que la Chine peut récupérer Taïwan. Absolument pas. C'est pas ce
elle a déjà bien récupéré Hong Kong en s'asseyant sur les accords qu'elle avait passés avec la Grande-Bretagne, qui n'était pas très clair dans l'affaire non plus.
Je suis pas sûr. C'était le 1er février, le 1er janvier 97. J'y étais, je ne suis pas certain qu'ils aient contredit des accords qu'ils auraient avec le Royaume-Uni. En tout cas, j'ai l'impression, Jacques, que vous n'aimez pas trop la Chine.
J'aime bien la Chine, qui est un pays fabuleux avec une histoire extrêmement riche. Je suis peut-être moins attaché au régime chinois tel qu'il est.
Moi non plus, mais je vous dis, il faut condamner ce qui
la
est condamnable.
La Chine, oui, son régime, non.
La récupération de Hong Kong, je ne suis pas certain que ce soit condamnable. C'était une verrue, c'était chez eux.
C'était une verrue commode parce qu'ils s'en sont bien servis sur le plan financier pendant des années pour commercer avec le reste du monde. Et aujourd'hui, ils ont soumis cette population qui avait quand même pris des habitudes de liberté, qu'aujourd'hui, ils n'ont absolument plus, parce que le régime chinois,
ce
ne sont quand même pas des grands démocrates.
Mais je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de vous dire une chose claire. C'est que moi, je considère que Taïwan fait partie de la Chine. Qu'aujourd'hui, les années ont passé et que c'est irréversible.
Elle fait partie de la Chine, peut-être culturellement, effectivement.
Bah, comme. Comme l'île d'Oléron fait partie de la France.
L'île d'Oléron a moins de problèmes. On a moins de problèmes. Bien, écoutez, il fallait un peu parler de M. Biden, il fallait parler de ses relations, parce que je crois que beaucoup de gens se sont illusionnés sur ce serait l'attitude de M. Biden face à l'Europe. Je vous propose de passer, de nous rapprocher, de quitter la Chine, les États-Unis et de revenir quasiment aux portes de Toulouse. Vous êtes le maire de l'Union, Marc Perret. Alors comment va cette merveilleuse petite ville de l'Union ? Combien d'habitants ?
13 000.
13 000, j'allais dire 15.
Ouais. Bon, moi j'arrondis rapidement à 20 000. Pour
vous y avez été très bien élu. Ce qui m'avait à l'époque surpris, parce que vous êtes quand même un peu un homme de gauche qui n'est pas forcément tempéré, sur une ville où il y a beaucoup de bourgeois relativement classiques et pas mal de troisième âge. Alors comment vous avez réussi ce tour de force ?
Eh bien effectivement, on a été élu en 2014 pour la première fois, alors que la ville était une ville de droite depuis la Libération, et qu'en 2014, des dizaines, voire des centaines de villes ont basculé de gauche à droite, dont Toulouse d'ailleurs. Et nous, on a fait le contraire. On a eu de la chance. On avait une mobilisation, un mouvement citoyen qui s'appelait l'Union Dynamique et Solidaire, qui travaillait depuis longtemps. Hein. Il y avait un gros travail qui a été fait pendant des années, pendant 8 ans. Mais on a surtout eu de la chance parce que la droite s'est vue belle et a présenté trois listes.
C'est peut-être 4 de trop.
C'est ça. Et qu'au deuxième tour, ils se sont maintenus à 2 listes. Donc on est passé dans un trou de souris à 44%. Et puis après, effectivement, en 2020, on a été très bien élus, puisqu'on a été élus avec... mes amis ont été élus, et moi, avons été élus avec 75% des voix, c'est ça.
Oui, c'est quand même une élection de maréchal. On est presque en Corée du Nord, là, non ?
Et aux élections départementales qui ont eu lieu en juin, on a fait le même score aussi. Enfin, notre binôme a fait le même score sur la ville de l'Union.
Donc vous êtes un maire apprécié ?
Je crois que oui, mais c'est pas moi. Je pense que c'est principalement... le fait qu'on ait libéré les agents de la mairie, libéré au sens où avant ils étaient un peu sous grande domination psychologique.
Et maintenant, qu'est-ce que vous entendez par là ?
Et ben maintenant ils ont la parole libre, ils ont un contact avec le citoyen qui est beaucoup plus ouvert, ils osent prendre des initiatives. Donc moi je pense que cette élection sur un plateau, c'est ça l'expression ?
Non,
sur...
Oui, c'est dans un fauteuil.
Elle est surtout due à la qualité du travail des agents de la mairie et de l'équipe d'élus qui m'entoure. Parce que nous, on a un fonctionnement strictement horizontal entre élus, entre les 9 adjoints. C'est-à-dire que les responsabilités sont partagées et ce n'est pas le maire qui tranche. Et donc, il y a une multiplication de contacts avec la population. Et en plus, on est des gens sympathiques.
Certainement. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, Marc Perret, mais pour la transparence de l'exposé, vous avez la carte chez qui ? Ou peut-être pas de carte du tout, d'ailleurs, je ne sais pas.
Non, pas de carte du tout. Aucune carte depuis... J'ai eu ma carte dans un parti politique, pour ne pas le nommer le Parti communiste, pendant 30 ans. De 17 ans à 47 ans. Donc moi, je viens de là, comme famille politique.
Mais vous l'avez quitté ?
Même plus que ça, 33 ans, puisque je l'ai quitté en 2010, pour des accords locaux, on va dire, hein. Mais je suis quelqu'un de culture marxiste, totalement.
Très bien. Alors, Jean-Luc Palévaudy fait comme à l'école, il lève la main. Jean-Luc.
Oui, ben, je voudrais profiter de la présence de M. Perret pour lui poser une ou deux questions. La première, elle concerne, comme je sais que vous étiez quand même assez engagé dans les mouvances qui ont eu beaucoup de succès en 2020, qui concernent on va dire les mouvements citoyens. Oui. En fait, ce qui m'intéresse, c'est un peu de savoir, à aujourd'hui, où on a l'impression quand même que ça s'estompe, que c'est la puissance de ce qui pouvait être porté en termes de volonté, justement, de changer la donne par rapport au débat qu'on avait tout à l'heure en introduction de cette émission. Comment vous la percevez aujourd'hui, vous qui êtes à la fois... on va dire un homme politique avec un passé assez traditionnel, on va dire, en termes d'engagement, et qui avait pris position, me semble-t-il, en tous les cas, de manière plutôt favorable par rapport à ces mouvements. Et la deuxième question, comme
on
ça...
On va laisser Marc Perret peut-être répondre sur la première, j'avais peur qu'il dise un passé assez lourd. Non, il a dit traditionnel.
Non, mais c'est une excellente question, hein, parce que c'est... on voit bien dans notre débat qu'on cherche des solutions... On poursuit le même horizon qui est de faire en sorte que les gens se réintéressent et se réapproprient la politique. Donc effectivement, moi j'ai un parcours politique extrêmement classique. Hein. Quand je suis entré à Sciences Po, j'ai pris ma carte, donc j'étais très très jeune.
Et vous étiez excusable, c'est ce que vous vouliez dire.
C'est ça, et je suis resté très longtemps et j'ai eu toute une formation là-dessus. Donc la force des partis politiques, elle est essentielle. Et il est exclu de la renier, et au contraire, il faut tout faire pour la renforcer. Et pourtant, moi, je fais partie avec trois amis, on est les quatre fondateurs du mouvement Archipel Citoyen. Donc on a fondé en juin 2017.
Mouvement gazeux, c'est ça ?
C'est ça, mouvement essentiellement gazeux.
Et le gaz, ça pète un peu, et là, ça a pété.
Non, mais ça a connu un grand succès, vous savez. On ne va pas revenir sur les raisons de la défaite. Mais en tout cas, sur cette question-là de l'engagement citoyen... si on fait le constat et on le partage que les gens ne vont pas naturellement vers des partis politiques, qu'est-ce qu'il faut inventer ? Nous, on a pensé que ce mouvement citoyen, en tout cas Archipel Citoyen, pouvait être un réceptacle pour que les gens viennent. Et moi, je peux vous dire, j'ai assisté à toutes les réunions pendant 2018, 2019, 2020. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de jeunes qui réinvestissaient le champ politique. Donc, après, le mouvement Archipel Citoyen. Contrairement à ce qui peut être pensé, avait un grand respect pour les partis politiques. Parce que moi, j'ai assisté à l'intégration de la France insoumise et d'Europe Écologie Les Verts là-dedans. Et c'était une nécessité pour Archipel Citoyen de dire il faut accueillir ces partis politiques et les respecter. Donc il faut pas dire qu'Archipel Citoyen s'opposait aux partis politiques, c'est inexact.
Deuxième question, Jean-Luc.
Alors peut-être un peu plus dérangeante, mais bon, on est là pour ça.
Alors allons.
Je vais y aller, moi.
Marc Perret, maire de l'Union, donc une commune de 15 000 habitants en Haute-Garonne, et qui vient d'être élu conseiller départemental. La gauche est traversée par une grosse réflexion, et notamment dans ce qui nous amène à essayer de réfléchir à comment ressusciter des vocations pour s'engager politiquement. La gauche, en général, est plutôt contre le cumul des mandats. Et donc, j'aurais envie de vous demander, Marc Perret, que ce soit le Parti communiste, le Parti socialiste, que ce soit Archipel citoyen, avait clairement pris position justement par rapport à cette non-possibilité de cumuler les mandats. Donc, j'imagine que vous avez une réponse appropriée. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu quand même contradictoire par rapport à ce que vous avez pu défendre par ailleurs ?
Avant que Marc Perret réponde, vous avez dit, Jean-Luc, que la gauche est contre le cumul des mandats. Pas tous, hein. un nombre. Comme ça, au hasard, M. Rebsamen à Dijon, quand on lui a dit qu'il fallait qu'il rende des mandats, il s'est élevé, il a poussé des cris d'orfraie. Donc, c'est peut-être pas totalement la gauche. Alors, Marc Perret, on cumule ?
Moi, je fais partie... Il faut analyser la trajectoire politique des gens qui sont aujourd'hui dans des positions. Moi, ça va continuer jusqu'au 31 décembre. Moi, je suis à mi-temps ingénieur. J'ai toujours été ingénieur et j'ai travaillé dans l'industrie spatiale. Donc, j'ai fait toute ma vie professionnelle jusqu'en 2015, où j'ai été élu maire de l'UE. Enfin, 2014. Et donc, en 2015, j'ai décidé de passer à mi-temps sur mon travail de. À l'époque, j'étais directeur général d'Aerospace Valley. Moi, je pense que, d'une part, effectivement, il y a un cumul de mandats entre maire, une ville de 15 000 habitants et conseiller départemental. C'est tout à fait gérable, c'est même souhaitable, à mon avis. D'ailleurs, la loi le prévoit pour ces raisons-là. Ce qui est inacceptable, c'est un cumul de mandats, effectivement, qui ferait que, manifestement, c'est impossible, 5 jours par semaine ou même 6 jours par semaine, de mener de front deux mandats, par exemple, député. Et maire, qui est interdit par la loi depuis 2012, je crois, on voit bien qu'on ne peut pas être député et maire, puisque député, il faut être 3-4 jours par semaine à Paris, on ne peut pas gérer une commune. Donc sur le cumul des mandats, moi je suis contre, effectivement, la loi telle qu'elle est aujourd'hui me semble suffisante, et je suis contre le fait de cumuler des mandats qui manifestement dépassent un temps plein pour une personne. Donc par exemple, deux mandats d'opposition, d'élus de l'opposition, évidemment que ce n'est pas quelque chose qui remplit... Ensuite, il y a une deuxième question qui se pose quand même, il faut se le dire entre nous. Quand vous êtes comme moi, vous avez fait votre carrière dans le privé et que vous êtes à des postes de responsabilité et que vous exercez ce travail-là et qu'en même temps, vous êtes élu, et bien des fois, vous vous dites, quand vous êtes élu, si je dis ça en position politique, sur un problème donné, je vais en subir les conséquences dans mon boulot. Donc moi, je voudrais qu'on distingue quelqu'un qui est prof, beaucoup d'amis élus adjoints chez moi qui sont profs, ou certains postes de fonctionnaires, même postes de fonctionnaires, on peut être mis en question. C'est-à-dire qu'on a du mal, il faut regarder si le fait qu'on ait un boulot, ce qui pour moi est une richesse, c'est ce que j'ai eu pendant toute ma vie, y compris ma vie politique, ne peut pas être menacé par dans sa vie de tous les jours, avec un patron qui vous dit « mais t'as dit ça là sur... sur la troisième ligne de métro, là, tu t'y opposes, je te rappelle que nous, on est pour. Hein. » Donc du coup, si vous êtes bridé dans votre expression politique à cause du boulot que vous avez, on a un problème. Parce qu'on est incapable dans ce pays d'avancer sur le statut de l'élu. Il n'y a pas de statut de l'élu, donc, notamment du privé. D'un autre côté, plus généralement, moi, je porte une vision politique et une vision de transformation pour changer la vie. Et chaque fois qu'il y aura une élection qui se présentera à moi, dans laquelle on me dit « t'as des chances de gagner parce que t'es maire ». Ça a été le cas pour les élections départementales. Pourquoi on a gagné ? C'est pas parce qu'on est des génies. On a gagné parce que, entre autres, je suis un peu connu à la ville de l'Union parce que j'en suis le maire et à Saint-Jean, je suis un peu connu. Donc cette position de maire a fait qu'on a gagné. Et moi, à chaque fois que je pourrais gagner des élections pour porter une parole de rupture et de changement de la vie politique, et que je peux gagner parce que j'ai un mandat, eh ben j'irai. Sans aucun scrupule, parce que je sais que sinon, on ne gagne pas et on laisse la même mélasse continuer, le fait une gestion d'un pays qui n'avance pas.
Marc Perret, on en terminera par là sur l'Union, puisque l'heure passe et je sais que vous avez des engagements. Les déplacements dans Toulouse, j'ai vu que vous manifestiez avec les chauffeurs de bus hier matin, de bonne heure,
oui,
de bonne humeur, j'espère.
5h30.
Voilà, très tôt, il ne devait pas faire très chaud. La troisième ligne...
Il y avait un feu.
Oui.
Dans les piquets de grève, il y a des feux.
C'est vrai, il y a toujours des feux.
Les merguez.
Là, la troisième ligne de métro, les trains de banlieue, etc. Votre point de vue, peut-être moi, rapidement là-dessus.
Moi, je suis ravi d'avoir un élu du Sicoval, de Ramonville, avec nous, parce que réellement, il y a... Les gens autour de moi, alors je ne sais pas si c'est le cas à Ramonville, ils me disent que depuis trois semaines, la rocade est bouchée, totalement bouchée. Moi, je vais vous le dire tranquillement, je porte avec d'autres un projet d'un RER toulousain. Un RER qui permettrait de... RER toulousain, ça veut dire utiliser à plein les 5 lignes de SNCF qui existent pour en faire des lignes où il y aurait une haute fréquence de 15 minutes et qu'on puisse faire... comme dans beaucoup de villes, qu'on puisse acheminer les gens, par exemple entre Muret et la gare Sainte-Agne. Est-ce que vous imaginez l'autoroute qui va vers Ikea, c'est-à-dire entre la Rocade et Muret, tous les matins, 10 km de bouchons. À côté de là, à côté, parallèle, il y a une ligne SNCF qui est sous-utilisée, dont on pourrait faire une ligne RER extraordinaire. Ça ne sera pas fait, ça ne se fera, rien n'est prévu pour cela, on ne va pas se la raconter. On va faire des pré-études de pré-faisabilité pour mettre tout cela au congélateur pour le siècle prochain. Rien ne sera fait aujourd'hui parce que, effectivement, il y a une bataille entre la région, le conseil régional et Toulouse Métropole, une bataille de pouvoir qui fait que tout est gelé, et parce que Toulouse Métropole a décidé de mettre 3 milliards d'euros dans la construction d'une troisième ligne de métro qui ne changera rien à la vie des banlieusards que nous sommes, avec mon collègue de Ramonville, nous partons pour des années et des années d'enfer. Et ça, ce n'est pas acceptable. Il faut défendre l'idée du RER.
Donc la vie de nos concitoyens serait facilitée, peut-être la planète un peu moins pourrie, ce qui serait une très belle chose. Bien, on va arrêter là. Je vais... Dernière rubrique, il n'y a que moi qui l'assumerai aujourd'hui, c'est le « Ça va mieux ». Je voulais juste vous dire que Pierre-Alain Mannoni, vous connaissez Pierre-Alain Mannoni, Marc Perret ? Non ? Pierre-Alain Mannoni a été totalement et définitivement relaxé par la Cour de cassation qui a rejeté le cinquième, je crois, des énièmes appels du parquet. C'est un homme qui avait eu 5 ans de poursuites judiciaires pour avoir secouru des immigrés dans la montagne de la Roya.
Oui, bien sûr. Oui.
Et donc, il avait recueilli 3 femmes qui avaient fui la guerre, hein, qui sont présentes en sécurité avec des papiers, un travail et certainement aujourd'hui, grâce à lui, un avenir. Un jour, il faudra bien quand même se pencher sur la façon dont l'État gère ces questions dans l'opacité la plus totale et au prix de méthodes dont je ne suis pas certain, d'une part que les Français soient informés et d'autre part qu'elles soient à l'honneur des valeurs que nous prônons dans notre pays, qui est toujours prompt à donner des leçons de droits de l'homme à la terre entière. Je vous avais demandé si vous aviez un conseil culturel à donner à nos auditeurs, une idée, non ?
Ah oui, moi je viens de lire un roman qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Un pied au paradis, d'un auteur américain qui s'appelle Ron Rash. R-A-S-H, Ron Rash, Un pied au paradis. C'est un roman exceptionnel qui fouille les âmes des personnages de ce roman de manière extraordinaire.
Jean-Luc ?
Oui, moi je voulais parler aussi d'un roman et je voulais vous parler du livre « Des mots jamais dits » de Violaine Béraud. Violaine Béraud qui est une femme de pyrénéenne, donc une écrivaine de la région et qui, dans ce livre, nous parle justement des choses qui se disent pas et avec des mots qui nous font dire qu'il faut les dire.
Eh ben, j'ai eu le plaisir de l'interviewer il y a quelques jours dans un endroit très particulier, dans une caverne dans la falaise de Bruniquel. pour son dernier roman. Et c'est effectivement une écrivaine talentueuse. Et moi, juste pour vous dire que le prix Nobel de littérature a été attribué au romancier tanzanien, alors je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Abdul Razak Gurna, qui a 73 ans, pour son écriture, et je cite les Nobel, empathique et sans compromis des effets du colonialisme et du destin des réfugiés, pris entre les cultures et les continents. Donc c'est le cinquième Nobel de littérature attribué à un Africain, bon, à ceci près qu'il vit en Angleterre où il est professeur d'université. Donc un auteur quand même à découvrir, enfin pour ma part du moins, je ne le connaissais pas. Merci messieurs, on va libérer Marc Perret qui est pressé, merci d'être venu, mais peut-être Marc Perret reviendrez-vous un jour prochain hein, pour que nous puissions continuer ces échanges passionnants. C'était Ça va mieux, une émission de Jacques Lavergne avec à la réalisation Tiphaine Lemaine. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que tous les autres podcasts sur le site d'Esprit Occitanie. À bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité, belle soirée à toutes et à tous.
Super.